Bonjour à tous, chers auditeurs d'Au fil du temps, l'émission qui s'intéresse à la relation entre les générations et à notre évolution au fil du temps. Ici Chantal Doré au micro avec notre dynamique équipe, Maurice Bolduc, notre metteur en onde derrière le plexiglas qui me jase ça dans mes écouteurs, et Catherine Bourderon à la recherche. Catherine qui nous surprend parfois avec des trouvailles qui nous amènent ailleurs. C'est d'ailleurs le cas de cette semaine où, en réunion de production, elle m'a proposé un livre pour enfants appelé « Les ratés » de Tania Baladi. Alors, pourquoi un livre pour enfants? C'est qu'en fait, il raconte une histoire dans laquelle on peut tous se reconnaître, c'est-à-dire la peur de se tromper. On parle de l'univers de la peinture et ça me rappelle d'ailleurs que le peintre et animateur de télévision Bob Ross, que vous connaissez peut-être grâce à son célèbre afro, appelait les erreurs en peinture des « happy accidents ». J'y ai vu une belle métaphore sur ce que l'on considère souvent les erreurs de parcours qui mènent pourtant parfois à des chemins inédits. En passant, je vous recommande fortement le documentaire sur Bob Ross sur Netflix appelé « Happy Accident, Betrayal and Greed ». Car oui, Bob Ross a été trahi économiquement par ses partenaires en qui il avait confiance et c'est peut-être là, lui, son erreur de ce peintre dont la douceur était légendaire. L'écouter peindre était quasi méditatif. On devenait rapidement hypnotisé par sa voix, proche du murmure et du chuchotement. Il y a aussi un lieu où on peut aisément tomber en état hypnotique si on y prend garde, ce sont les réseaux sociaux. Entre autres, les petites vidéos de musique, de danse, de bricolage. On en regarde un, puis on en regarde un autre, et on se retrouve à spirer dans une spirale beaucoup plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Dernièrement, j'ai vu apparaître sur mon fil Facebook ce qu'on appelle des « reels », soit des petites vidéos de danse et musique inspirées de la plateforme TikTok, qui est actuellement l'application la plus téléchargée. Je ne sais pas si ce TikTok fait partie de votre routine de réseaux sociaux, mais peut-être sinon avez-vous entendu vos amis, enfants ou petits-enfants vous en parler. Alors pour bien comprendre ce qu'est TikTok et son influence grandissante, nous avons invité Nadia Serayoko, chargée de cours à l'UQAM, et chroniqueuse techno. Je voudrais entre autres qu'elle m'explique un étrange phénomène sur les réseaux sociaux qui est le mélange entre divertissement et contenu, soit des chorégraphies sur de la musique pendant que défile du texte à l'écran. Voilà le menu de cette 60e émission d'Au fil du temps cette semaine que l'on ouvre avec une chanson multigénérationnelle, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les chansons peuvent se reconnaître, toutes les générations peuvent s'y reconnaître et comme cette pièce s'appelle « September » et que nous sommes en septembre au moment de cette première diffusion, on ne va sûrement pas s'en priver. Alors Maurice, envoie-nous « September ».
While chasing
c'était September de Earth, Wind and Fire. Sans doute avez-vous eu envie d'esquisser quelques pas de danse, comme dans cette scène classique du film Les Intouchables, qui met en fait un improbable duo. C'est une histoire vraie. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est une suggestion que je vous fais, parce que l'improbable duo, c'est un richissime homme quadraplégique et un homme qu'on pourrait dire que c'est un raté et qui a tellement bien viré. Alors, je suis intéressée de voir un peu comment on peut dire que les ratés de notre vie nous amènent complètement ailleurs. Alors, nous allons parler avec l'auteur du livre « Jeunesse, les ratés ». Nadia Baladi, elle est formée en théâtre et en art-thérapie. Elle œuvre également en médiation culturelle, anime des activités culturelles, artistiques, littéraires au sein de son entreprise La Fabrique à nuages. Bonjour Nadia.
Bonjour, c'est Tania Baladi, mais très contente d'être là.
Ah Tania, bon. Voyez-vous, quelques petites lettres et on est complètement
ben oui.
Ailleurs. Bonjour Tania. Alors, c'est ça, c'est un... Racontez-nous là, rapidement un peu quelle est l'histoire de Les Ratés.
Oui, donc Les Ratés, c'est l'histoire de Simone, c'est une petite fille d'à peu près 7 ans qui aime beaucoup dessiner. Puis quand elle dessine, elle s'imagine vraiment le résultat dans sa tête. Hein? La pomme, il faut qu'elle ressemble à une certaine chose. Puis surtout, elle a comme une technique particulière où elle ne doit pas dépasser. Qu'elle a des critères super élevés et une fois de temps en temps, elle n'est pas satisfaite, elle a l'impression qu'elle a raté son dessin et c'est quelque chose qui empire hein, au fil du livre, elle devient de plus en plus insatisfaite et elle fait la rencontre de Kevin, un artiste muraliste qui l'amène à dessiner autrement. C'est-à-dire plutôt que d'imaginer les résultats déjà dans sa tête, de partir plus du processus. Donc, de laisser venir les idées et de les accueillir, de transformer en fait ses erreurs aussi quand elle en fait. Il l'amène à se dépasser aussi à la fin du livre.
Et pourquoi vous avez décidé de faire ce livre qui est d'ailleurs magnifiquement illustré par votre partenaire?
Oui, Mathieu Potvin.
Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que là, vous avez animé, vous êtes formée en art-thérapie, donc j'imagine que du côté de l'art, c'est des situations que vous voyez souvent?
Oui, moi, je travaille avec les enfants dans des contextes plus de loisirs culturels. Hein, donc, disons, ils vont avoir un bricolage à faire, puis j'en ai beaucoup. Je vais travailler, par exemple, dans les bibliothèques. Et là, j'en ai peut-être une trentaine devant moi entre 6 ans et 13 ans, et on a une heure pour réaliser le bricolage. Il faut que tout le monde reparte avec son bricolage, puis je sens que c'est très axé sur le résultat. Hein, et une fois de temps en temps, puis plus souvent qu'autrement, il y en a un qui est pas content, qui trouve qu'il a raté, puis qui est frustré. Puis souvent, j'avais le sentiment que j'avais dans mes armes un peu à gérer la situation. J'avais l'impression que peu importe ce que je disais, l'enfer partait un peu le cœur gros, puis il était dans son sentiment de frustration. Puis j'avais l'impression que peu importe le nombre de feuilles que je lui donnerais, là, ça ne changeait pas nécessairement le sentiment. Alors, je me suis dit, j'allais écrire une histoire qui allait parler de ça. Ouais.
C'est sûr qu'on est, au fil du temps, une émission intergénérationnelle, donc on tente de s'adresser à différentes générations. Et j'étais curieuse de voir si vous avez assisté à ce phénomène-là, si ça se... Comment je pourrais dire? Ça se perpétue en grandissant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus libres dans leur création et d'autres qui se fixent des objectifs tellement précis que inévitablement ils deviennent déçus?
Bien, on dirait qu'en l'écrivant, j'étais un peu... consciente, en fait. On dirait que j'avais envie de... C'était un espèce de commentaire, on pourrait dire, sur notre culture de la performance que je sens même chez les jeunes, en fait. J'ai l'impression que ça commence là, dès 5 ans devant ton bricolage. Et c'est vraiment pas tous les jeunes avec qui je travaille, mais c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, donc et qui vient me chercher quand je le vois avec les jeunes. Il y a peut-être quelque chose, je trouve, en fait, ce que j'ai voulu exprimer dans le livre, c'est que c'est un livre sur le processus et non sur le résultat. Je trouve qu'on est beaucoup dans une culture de la performance en ce moment où on est très axé sur des résultats très rapides. Hein. Il faut obtenir des résultats rapidement. Alors que quand on parle de création, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait pas en une heure. C'est pas des étapes qu'on enchaîne nécessairement avec un tutoriel. Et c'est ça. J'ai l'impression que les choses doivent se faire rapidement. C'est quelque chose dans, je pense qu'on, comme adulte, la pression de performance, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. On veut être un bon parent, on veut être un bon travailleur. Même si c'est pas quelque chose qu'on veut transmettre à son enfant, souvent c'est quelque chose qui est assimilé dans la société puis qui est comme un peu acquis, je trouve, dans nos mœurs. Voilà.
Je regarde un peu chez les nouvelles générations et si je compare à mon enfance, on avait beaucoup de temps pour l'ennui. Donc, on n'était pas arrivé derrière nos écrans constamment. Donc, il y avait beaucoup de périodes là, où on s'ennuyait et c'est souvent là que naissait la créativité, l'innovation, où on combinait des choses disparates ensemble pour créer de nouvelles choses. Et je me demande si dans votre pratique, vous n'avez pas remarqué que justement le fait de s'ennuyer moins et de suivre justement des jeux vidéo qui ont vraiment un code très précis, si ça ne contribue pas à cette situation?
Bien, moi, ce que j'observe, c'est que, puis je ne veux pas généraliser, mais souvent, la capacité d'attention, juste de suivre quelque chose où on n'est pas constamment stimulé, là, des fois, c'est difficile pour certains jeunes, en fait. Juste d'être assis devant son bricolage, puis d'être pas stimulé par un écran ou 10 000 stimuli, c'est pas quelque chose qui est demandé souvent, en fait. Fait que des fois, je me sens presque, quand je suis devant des groupes d'enfants, qu'il faut que je sois comme un entertainer là, pour enfiler les punchs, pour en fait capter leur attention pendant une heure. C'est difficile des fois de rivaliser avec les écrans dans un rythme un petit peu plus lent. Mais en même temps, je vois c'est vraiment pas une généralisation que je veux faire. Je vois aussi beaucoup de familles qui essaient de cultiver ces petits moments-là aussi, mais je pense que oui, il y a quelque chose dans la culture qui fait que on a de la misère à s'abandonner à un rythme plus lent. Voilà.
Puis d'avoir justement, quelles sont les explications que vous donnez justement sur la créativité dans vos ateliers?
C'est ça ce qui est particulier, hein. C'est que moi, je suis formée en drama-thérapie, la formation est en théâtre, mais je me retrouve à travailler plus dans des contextes de loisirs culturels. Mm-hmm. Alors moi, si je travaillais plus du côté de thérapie par les arts, j'arriverais pas avec, un modèle d'un bricolage tout fait. L'idée, ça serait que la personne doit trouver son chemin pour se rendre là. Et j'ai l'impression que là, dans le contexte dans lequel je travaille, je dois prendre des raccourcis tout le temps parce que l'activité, je dois la rendre accessible à le plus grand nombre de jeunes avec un grand écart d'âge. Il faut que les gens puissent me comprendre rapidement. Des fois, il y en a qui comprennent pas le français. Donc, j'ai l'impression de toujours prendre des petits raccourcis comme ça. Puis, des fois, au final, c'est bon, la créativité va s'exprimer dans des petits gestes, dans le choix de couleurs, mais je reste toujours un petit peu sur ma faim en me disant, mais je trouve pas que c'est ça que j'amène quand dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit Les Ratés. Puis, ben moi, j'ai une formation artistique. Puis, j'ai mon parcours, j'ai comme dévié quelque part aussi où je me suis mis à faire d'autres choses. Puis, d'écrire, c'est mon premier livre. Ça m'a permis de reconnecter moi-même avec la création. Il y avait cette double situation-là. Simone, dans mon livre, le personnage principal, c'est un petit peu moi. Il y avait moi qui va envoyer un premier manuscrit à un éditeur puis qui a peur de l'échec. Puis donc, je parlais un petit peu de ça aussi à travers mon personnage.
Oui, je me suis demandé d'ailleurs, parce qu'on voit le personnage de Simone envoyer tous ses dessins au bac à recyclage. Ouais. Et je me suis demandé combien de versions de votre livre se sont rendues au bac à recyclage.
Ah, mon Dieu, c'était sur un ordinateur, mais...
bac à recyclage numérique, bien sûr.
Oui, je les compte. C'est sûr que... mon premier livre, c'est un album, c'est pas pour rien. Là. Mm-hmm. Chaque mot est choisi, chaque virgule est choisie. Je suis un petit peu tatillonne. J'ai pas l'impression que les choses arrivent avec un flow là, rapidement. Juste comme construire cette histoire-là, je l'ai construite petit à petit. À un moment donné, j'ai fait un lien que je trouve intéressant dans le fait que Simone rencontre un artiste muraliste, c'est que quand on fait une murale, on peut pas nécessairement effacer. Hein. C'est sur un mur, c'est permanent. Puis je m'intéresse beaucoup au street art, j'ai fait des rencontres avec des artistes muralistes. On dirait que juste pour démarrer, là, il y a eu beaucoup de recherches pour... en fait, c'est un 32 pages, là, il y a peut-être 1000 mots dans mon texte, mais c'est un processus lent, en fait, je pourrais dire.
Donc, vous êtes passé par le même... Vous êtes passé par le même processus que votre Simone, de vous remettre en question, de vous dire est-ce que c'est bon ce que je fais, comment je continue malgré le fait que peut-être parfois on est déçu de notre production.
Oui, absolument. En fait, même ça n'a pas été, les Québec-Amérique, quand ils m'ont approché, ils m'ont pas dit OK, on publie ton livre, il faut que tu le retravailles. Mm-hmm. Certaines conditions, c'était pas acquis. Donc, il y avait cette pression-là, en fait, de vouloir bien faire les choses. Fait que oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a aidée parce que ben quand on parle un petit peu de soi, on s'implique davantage, puis c'est là que je pense que la mayonnaise a un peu plus pogné dans ma...
oui.
je pourrais dire dans mon histoire. À partir du moment où je parlais de moi-même, là, je pense que j'étais dans mon sujet.
Tania, on va aller en musique. On va s'amuser un petit peu avec une chanson de San Severino qui s'appelle Le swing du nul.
Oh, je connais pas.
En déception, my best of my spécialité, c'est que tout ce que j'entreprends finit par rater. Je suis monsieur des illusions, le roi de l'annulation, un collectionneur d'événements qui n'arrive jamais. Alors, j'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul, oh mellow, 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 mellow. Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul, oh mellow, 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 mellow. Quand il faut prendre une décision, au lieu de dire oui, je dis non. Et dans le cas contraire, je fais tout le contraire. Je parle vers l'en à l'envers et ma voiture n'a que la marche arrière. J'arrive en retard à chaque fois et au mauvais endroit. Tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul. Oh mellow, 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 mellow. Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul. Oh mellow, 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 mellow. Swing the nul, c'est le swing the nul. Oh mellow, 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 mellow. Oh, oh, oh. Vous allez vous calmer un peu là. Arrêtez, arrêtez. Hey, mellow, mellow, swing. Mellow, mellow, swing. Mellow, mellow, swing. Oh. Faudrait que j'aille de l'autre côté de la terre, là où les gens marchent à l'envers. Je serais peut-être dans le bon sens, une fois dans l'autre sens. En prenant le bon côté de la chose, en inversant l'effet et la cause. Est-ce que tout rater, ça serait pas tout réussir? Bon, mais pourquoi? Est-ce que tout rater, ça serait pas tout réussir? Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul. Oh, mellow, 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 mellow. Swing du nul, swing du nul. C'est le swing du nul. Oh, mellow, 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 mellow. En déception, my best of my spécialité, c'est que tout ce 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 que j'entreprends finit par rater.
C'était le swing du nul de San Severino qui dit que tout ce qu'il entreprend finit par rater. Et il y a une phrase, Tania, sur laquelle je veux vous relancer. Il dit « Je serais peut-être dans le bon sens si j'étais de l'autre sens ».
Oui.
Et je me demande.
C'est intéressant.
Oui, ben justement dans les écoles ou même ailleurs, ailleurs dans les loisirs, peu importe l'âge,
ouais.
Il y a comme ce souci de conformité là à une œuvre où justement des fois des enfants ou d'autres personnes qui vont ne pas suivre nécessairement la procédure sont vus comme un peu dérangeants.
Oui, absolument.
Alors que c'est de la créativité.
Ben oui. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est de... Souvent, la créativité, là, s'associe souvent aux arts. Alors, c'est vraiment comme quelque chose qui est à développer, je pense, que dans tous les domaines de sa vie. Puis, en fait, je pense que c'est ça, quand on travaille avec les enfants... En fait, j'ai juste envie, je pense, de vous raconter une anecdote personnelle.
Oui, allez-y.
Parce que c'est un peu à la base de mon livre aussi. Moi, je voulais beaucoup danser quand j'étais petite. Là, mm-hmm. J'étais une danseuse, j'ai pris des cours de ballet, tout ça.
Avez-vous aimé la chanson?
Non, oui. Et ça m'a fait penser à ça. Et en fait, ben, j'étais pas très bonne. J'étais toujours, je faisais pas les bons mouvements. J'étais pas dans le bon sens. J'ai pas de coordination. Puis pourtant, j'étais travaillante. J'essayais.
Ouais.
Un jour, j'ai rencontré une prof qui a fait toute la différence. Mm. Puis ça a été juste en une fois, quelques heures. Je pense qu'elle voyait que j'étais un petit peu aussi dans la lune, créative. Donc, elle m'a permis, en fait, de demander à deux autres collègues de la classe de d'embarquer dans ma chorégraphie. Donc, c'était à moi de la créer. Donc, à l'intérieur d'une grosse chorégraphie de groupe, il y avait un petit moment où moi, je créais ma propre chorégraphie avec deux amis. Et ce moment-là, je m'en souviens encore. Pour moi, c'est comme une occasion d'apprentissage. Elle m'a montré que j'étais pas capable de me rendre du point A à B. Mais j'ai pu faire autre chose, en fait, pour m'y rendre. En fait, c'est comme si, souvent, j'ai ce réflexe-là maintenant. Quand je suis pas capable, des fois, de remplir une demande, je vais inventer ce qu'il y a à faire. Et elle a en fait transformé une expérience qui aurait pu être, peu traumatisante. Là, je suis pas bonne en danse. Tout ça, je me sens valorisée dans un autre contexte. Puis je pense que c'est ça, en fait, que je souhaite transmettre aux jeunes, en fait. T'sais, malgré toutes les contraintes du contexte, moi, je leur permets toujours de faire ce qu'ils veulent, puis de, tu sais, OK, si t'as pas fait ce qui est demandé, c'est pas grave. On va essayer de partir de ce que t'as fait pour voir si ça pourrait pas nous mener ailleurs.
Exactement, puis c'est aussi ça. Des leçons d'innovation, parce que c'est comme ça que les grandes idées arrivent. C'est justement quand on n'est pas dans un cadre défini par quelqu'un, on va ailleurs. Et j'ai une question à vous poser. Moi, ça me fascine, hein, la popularité des livres à colorier pour adultes.
Ouais. Oh mon Dieu, vous avez tombé pile sur le déclencheur, en fait,
de
ce livre-là. À la base, je pense que, bon, j'étais un petit peu dans le jugement. Habituellement, quand on est dans le jugement, c'est quelque chose qui nous dérange.
Mm-hmm.
Mais moi, j'étais tannée de cette mode-là de livres coloriés. Puis je pense que c'est le fun, un livre à colorier, c'est rassurant. On peut s'en... Sauf que là, c'est comme si on attribuait plein de vertus. Là, comme je voyais des fois le mot créativité sur les couvertures du livre. Puis je me disais, ça me donne juste envie de barbouiller puis de dépasser des lignes. Alors, c'est un peu comme ça là, qu'est né les ratés. En fait, comment je vois ça, je pense que des gens ont différents besoins. On part tous de quelque part. Ça peut arriver, effectivement, c'est un bon loisir pour arriver à se détendre. Mais c'est comme si on te donne deux crayons alors que tu pourras avoir accès à une boîte à outils au complet, je trouve, un livre à colorier. Fait que c'est ça. Donc, je comprends la popularité. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de très rassurant.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Donc, créer aussi, ça suppose une part de risque, en fait.
Oui.
Une part d'imprévu qui n'est pas là, en fait. Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que d'être à l'écoute de son besoin, de dire est-ce que j'ai besoin juste de me déposer, relaxer, donc j'y vais avec un cadre un peu plus structuré et je me sens prête à aller dans des zones d'inconfort où je ne serai pas nécessairement bonne, performante. Et là, à ce moment-là, je suis plus dans le chemin, plus dans ce qui se passe. Donc de le faire en...
Donc, il y a plusieurs possibilités. Tout dépend de tu sais, puis c'est pas... Mais oui, c'est sûr qu'il faut rester à l'écoute de... Tu sais, dans une démarche d'art-thérapie, ben il y a plusieurs outils, là. Si on tombait sur un jeune qui a besoin de plus de structure, ça serait quelque chose de peut-être plus répétitif. On en irait vers quelque chose comme ça. Ça demande quand même, comment je pourrais dire, faut faire face à l'imprévu. Hein. Fait que ça demande quand même du courage de plonger vers... Puis des fois, c'est difficile de démarrer quand tout est possible aussi. Donc,
oui.
Ça prend une structure, un point de départ. Puis je pense qu'on est tous différents. On vit tous des moments, des fois, on a besoin de plus de structure, des fois, plus de liberté. Ouais.
Ben effectivement, je vous raconte ça en terminant. J'avais un fils, justement, qui avait beaucoup de difficultés à faire le deuil de tous les possibles.
Oui.
Et ben c'est ça, ça. En tout cas, moi, c'est drôle, c'est le prof d'art plastique de mon fils qui m'a fait réaliser à quel point je connaissais, en fait, de saisir la personnalité même de mon fils. Ça a été très utile de faire cette démarche-là avec elle.
Oui, oui.
Hey, bonsoir. Tania Baladi, merci d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Oui, votre livre jeunesse qui est magnifiquement illustré s'appelle Les Ratés et est publié aux éditions Québec-Amérique. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Après la pause, on parle de TikTok.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Après la pause, nous recevons Nadia Serrayoko pour parler des réseaux sociaux et plus particulièrement du phénomène TikTok et de son concurrent, pourrais-je dire, les Reels sur Facebook. Un phénomène qui, moi, m'intéresse vraiment beaucoup. Et parlant de réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook. Nous avons une page qui s'appelle « Au fil du temps, Canal M ». Je vous invite à participer, à nous donner des idées de sujets, de gens que vous aimeriez que nous recevions pour vous. Et également, si vous souhaitez écouter l'une de nos 59 autres émissions, nous sommes sur canalm.vusezvoix.com ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Alors, une chanson bien de circonstances. Vous allez voir, c'est un mélange assez inusité. C'est de Stromae et... Enfin, je vous laisse découvrir ça. Écoutez bien.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme.
Un jour ta
rachètes. Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras. On s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey.
C'était Carmen de Stromae. Évidemment, vous avez reconnu l'air de fond, l'opéra Carmen, adapté à la sauce des réseaux sociaux. C'est sans contredit l'un des grands changements intergénérationnels. Au fil des années, ils se sont multipliés et chaque génération a désormais ses réseaux sociaux fétiches. Ces temps-ci, c'est TikTok qui a la cote et j'avais envie d'explorer le phénomène avec une spécialiste qui est Nadia Serrayoko. Elle est chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM et candidate au doctorat, autrice, chroniqueur, chercheur, artiste multidisciplinaire. J'ai de la difficulté avec mes mots aujourd'hui, je suis désolée. C'est sans contredit la personne pour décortiquer tous ces phénomènes. Bonjour Nadia.
Bonjour, bonjour.
Moi, je suis assez étonnée parce que TikTok, dans ma tête, c'est un réseau de jeunes et j'entends de plus en plus mes amis dire « j'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu ça sur TikTok », des amis là, de 40, 50, 60 ans.
Oui, bien écoutez, il faut dire que oui, les jeunes l'ont pris d'assaut, je dirais, là, très rapidement. Le réseau, là, il faut quand même situer, hein,
c'est, c'est
parce que ça fait pas si longtemps que ça existe. En 2016, on a lancé à Pékin Douyin, qui est la version chinoise de TikTok. Et là, ensuite, ByteDance a lancé TikTok. Donc, c'était pour les marchés à l'extérieur de la Chine. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont racheté après un réseau qui commençait à s'installer pas mal aux États-Unis, qui s'appelait Musical.ly. Et là, en mettant tout ça ensemble, ben ça a donné le TikTok tel qu'on le connaît. Donc, TikTok, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait des serveurs pour les publics américains, européens et ailleurs dans le monde et des serveurs pour les publics chinois. Ce qui a fait, par exemple, la popularité de l'application, c'est vraiment la facilité avec laquelle on peut capter une vidéo, éditer la vidéo directement, la remixer dans l'application, rajouter la musique. Quand vous choisissez des tracks musicales, littéralement, dans l'application, vous les mettez dans votre petite banque et quand vous êtes prêt, vous les utilisez. Et vous pouvez même mettre des effets spéciaux sur votre vidéo. Fait que là, donc, les jeunes, évidemment, ont un temps fou avec ça. Et ce qui arrive aussi, c'est que là-dessus, comme tout va très vite, des vidéos, souvent c'est quelques secondes, moins d'une minute, etc. Donc, les gens se lancent des défis. Et là, la page d'accueil de TikTok vous permet de voir les tendances qui sont là et qu'est-ce qui se passe avec ça. Et si vous vous demandez comment il y a de monde qui utilise TikTok, imaginez-vous donc qu'on était rendu à peu près à plus de 2 milliards de téléchargements
tout
récemment. Oui, ça, c'était Facebook qui avait ce record-là de 2,3 milliards. Et là, on sait qu'il y a environ 1 million d'utilisateurs qui sont là pratiquement tous les jours. Fait que c'est énorme. Et c'est vraiment là, à 60%, c'est encore aux États-Unis, surtout les 16 à 24 ans qui sont très, très présents sur TikTok et qui font finalement la pluie beau temps. On le voit à ce temps-ci, là, quand c'est la rentrée scolaire, il y a des défis en lien avec l'école, des petites plaisanteries sur comment les gens s'habillent, quel style mettre pour faire telle activité à l'école. Fait qu'on voit que c'est vraiment un réseau où tout va vite. Une tendance, là, quand ça fait 3 jours qu'elle est là, elle est dépassée, on est rendu ailleurs. Là, t'sais, on n'a pas le temps, là. Et c'est d'ailleurs, on se rappellera pour les gens plus vieux qui ont adopté le réseau, que c'est sur TikTok que l'histoire de OK Boomer avait vraiment levé. Voilà, cette musique-là de Peter Colley, là, le fameux OK Boomer, et ben c'est là que la tendance avec la trame sonore qui se trouve ensuite sur Spotify. Fait que vous voyez un petit peu comment tout ça rime. quelqu'un lance ça, les gens se mettent à utiliser grandement un petit extrait justement de la pièce composée par Colly. Et première chose qu'on s'aperçoit, c'est rendu un hit aussi sur Spotify, sur YouTube, un peu partout. Fait que quand quelque chose part de TikTok, ça se répand comme une traînée de poudre sur les autres réseaux.
Mais justement, qu'est-ce qui explique cette viralité de TikTok extrême? Comme vous dites, c'est comme le feu aux poudres.
Oui, puis on ne connaît pas vraiment, je dirais, les algorithmes de TikTok. On commence là, de l'extérieur en recherche. On a vu, entre autres, le Wall Street Journal qui a fait de la recherche là-dessus en créant des comptes, puis en regardant comment est-ce qu'on suggérait à ces comptes-là, justement, d'autres comptes à suivre, des tendances. C'est qu'aussi, ce qui fait que ça va très vite sur TikTok, c'est que, par exemple, on peut suivre, une tendance. Là, quand on suit une tendance, les vidéos qui vont être les plus populaires dans cette tendance-là, c'est celles qui vous font réagir le plus. Ça, c'est un principe de viralité qu'on connaît déjà parce que Facebook agit comme ça aussi, mais dans les deux cas, on ne nous présente pas les algorithmes avec leur spécificité. Fait qu'il faut essayer de deviner un peu comment ils fonctionnent. Et ce qu'on comprend, c'est que sur TikTok, l'engagement, là, c'est vraiment ce qui est garant d'engagement, c'est les émotions. On appelle aux émotions fortes pour que vous, à ce moment-là, cliquiez plus, puis pour que vous mettiez dans vos favoris des tendances, des comptes, et comme ça, pour vous créer un univers où vous allez toujours être très engagé. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça vous garde longtemps sur le réseau. Tant et tellement que des fois, quand j'en parle avec mes étudiants, ils me disent, Madame, TikTok, là, pendant la session, je dois l'enlever. Madame, c'est vrai, ils m'appellent comme ça.
Oui, on est rendu là, hein, c'est ça.
Juste sur TikTok, c'est vrai, ils m'appellent Madame. Mais donc, ils me disent souvent qu'ils enlèvent l'application pendant quelques semaines, pendant la session, parce que c'est trop captivant.
Bien, un peu comme les gens qui décident de se bannir là, du casino.
Oui, exactement. Je pense que et puis il y a une logique de casino dans ça. Hein. On l'avait dit même avec Facebook. Il y a une logique où on devient un petit peu, tu sais, vraiment là, intoxiqué aux notifications, puis à rafraîchir le fil, puis voir des nouvelles choses. Et TikTok le fait à une vitesse folle. Quand vous êtes sur le fil, on l'a appelé en plaisanterie avec des collaborateurs à la radio le défilement infernal. Vous vous mettez à défiler et ça ne finit plus parce qu'on vous représente. Chaque fois que vous avez liké un contenu, on vous en représente du similaire, etc. Fait que une demi-heure se transforme en heure, une heure en deux heures, et finalement, des fois, on s'aperçoit qu'on a perdu plusieurs heures à suivre une piste dans une spirale infinie de sujets reliés à ça et à s'engager de plus en plus dans le réseau.
Nadia, il y a un phénomène sur en fait, qui est un peu, moi, qui m'intrigue profondément, parce que, je me disais, ça va, la danse, l'humour, les vidéos, les défis... Mais la tendance que je vois en ce moment de mêler le mouvement, la musique et les contenus qui sont en plus de type éducatif ou de type question. Et là, je demandais à Maurice de faire entendre. Et là, je crois que là, vous allez nous démêler tout ça, mais je crois que ça, plus les reels sur Facebook. Mais Maurice va nous faire entendre quelque chose. Nadia?
Oui.
Là, moi, quand j'ai vu ça sur mon Facebook, c'était une fille qui parlait de comment elle parlait, de quelle manière elle avait accouché, que ce soit vaginalement ou par césarienne, et elle faisait certains gestes avec ses mains en même temps qu'elle danse. Et là, moi, je me suis dit, OK, là, j'ai besoin de parler à une spécialiste parce que je ne comprends pas les codes de ça.
Ben là, écoutez, c'est que effectivement, on parle de toutes sortes de choses. Et quand on parle du reel qui est sur Instagram et que Facebook a amené à la fin de l'été, là, c'est disponible aussi maintenant sur le site principal sur Facebook.
Oui, c'est là que je l'ai vu.
C'est une réponse. Oui, oui, c'est ça. C'est parce que, écoutez-vous que pour les autres publics qui ne sont pas branchés Instagram ou TikTok, Facebook n'est pas fou. Hein? Ils vont toujours trouver un moyen de nous rejoindre. Et Facebook, quand ils ont constaté la popularité de TikTok, qui est vraiment rendue, qui est en train de dépasser littéralement Facebook avec presque 3 milliards, ils ont fait okay, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre réseau jeunesse, notre 16-24 à nous, c'est Instagram, où vraiment toutes les tendances sont. Donc, on va aussi proposer des vidéos à contenu rapide, des vidéos avec cette espèce de, hein, de défilement-là. Quand vous êtes sur Instagram et que vous choisissez une thématique, moi, par exemple, des fois, je vais choisir des recettes, etc., mais ce que vous parlez de, sur les accouchements, j'ai vu ça passer aussi. Bien là, on rentre là-dedans et on peut voir facilement 15, 20, 30 vidéos de suite sur des gens qui nous proposent des contenus reliés à ça. C'est évidemment, je vous dirais que le défilement est moins infernal si vous n'êtes pas habitué sur les reels que vous allez trouver dans Instagram que ce qu'on a sur TikTok. Sur TikTok, on a l'impression d'être vraiment dans un foisonnement constant puis de ne pas pouvoir arrêter pratiquement le défilement. Alors que moi, quand je vais sur Instagram, et l'expérience est commune, là, on va aimer, par exemple, un mot-clic. On va nous présenter une série de contenus puis vous pouvez choisir. Et là, si votre mot-clic, c'est motherhood, hein, par exemple, maternité, motherhood, mère, etc., ben oui, vous allez tomber sur des contenus de filles qui vont parler de leurs exercices de prénataux, qui vont parler de tous ces sujets-là et qui vont peut-être même, je sais qu'il y a des influenceuses qui ont mis des segments de leur accouchement en ligne. Vraiment, là, genre, donc, la version, c'est comme en promotion. Hein, la version 15 secondes, le 30 secondes pour les intéressés, le 2 minutes, le 20 minutes sur YouTube. On a tendance de plus en plus à découper les contenus comme on le faisait avec la publicité numérique et à les diffuser sur différentes plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vise des publics, des fois différents, le public qui va écouter l'accouchement de peut-être 2h30 au complet sur YouTube et pas le même qui veut avoir, par exemple, en rapidement, je dirais, une vision de qu'est-ce que sont les tendances, par exemple, présentement dans les salles d'accouchement, etc.
Mais Nadia, j'ai vu cette même le Magic Bomb là, pour des conseillers financiers. Là, on voit les questions, est-ce mieux un CELI ou un REER? Et c'est tout le temps cette chanson-là qui devient hypnotisante. Mais ma question, c'est, est-ce qu'on est rendu qu'on n'est plus capable de recevoir des contenus sans stimulation?
Je pense qu'effectivement, on travaille, je vous dirais, à nous renforcer le cerveau. Si je ne veux pas avoir l'air de sombrer dans le complot, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'économie de l'attention, Chantal. Hein? Puis on a juste 24 heures normalement dans une journée. Et toutes ces marques-là, les gens qui veulent vous vendre des CELI, les gens qui veulent vous vendre des espadrilles, ceux qui sont des influenceurs qui veulent que vous suiviez leur contenu dans le but de vous pousser de la marchandise pour faire des sous, etc., tout le monde veut une petite part de vos 24 heures. Et pour l'obtenir, ben ils vont se dire, c'est quoi la chanson la plus à la mode qui fait le plus réagir? Quel beat est le plus intéressant? Puis là, on a des statistiques par rapport à ça. Parce que quand on va dans ces plateformes-là, on voit quelles pièces sont le plus utilisées, comment ça a été utilisé. Il y en a même qui réutilisent une track sonore parlée de quelqu'un pour refaire de la vidéo, hein, pour que ça soit amusant, que ça soit dynamique. Fait que donc, on va essayer d'utiliser toutes ces stratégies-là, je vous dirais, de confection de vidéos dans le but d'avoir là, un 15 secondes de votre attention. Fait que là, avant, quand vous écoutiez de la publicité, vous étiez devant la télé, puis vous pouviez vous lever puis aller vous prendre un petit café ou un verre de lait là, au frigo, puis revenir ensuite, puis pas l'écouter. Mais là, maintenant, elle est devant vous. Quand vous êtes sur votre téléphone, sur votre appareil mobile, sur votre ordinateur de bureau, et il y a toutes ces marques-là, ces contenus-là, ces influenceurs et influenceuses-là qui se disent « OK, il faut que j'aille chercher là, 15 secondes chez Chantal pour qu'elle voit ma pub. » Fait que donc, ils vont utiliser des effets spéciaux, des effets de surprise, vous remarquerez. Beaucoup aussi d'appels, je vous dirais, à la sexualité. On va vous mettre des contenus qui ont l'air sexy ou encore qui font des bruits très forts. Donc, un côté, je dirais, une certaine violence qui va se manifester parce que c'est ce qui retient votre attention. Et c'est comme ça qu'on réussit à choquer un peu l'audience qui est habituée à en voir. Moi, je serais surprise de voir combien d'heures par jour présentement nos ados voient de vidéos, là, parce que c'est sûr, certainement beaucoup avec ces plateformes-là, tant et tellement que même dans le cas de TikTok, pour se prémunir des parents qui décideraient d'enlever l'appli aux jeunes. Mm-hmm. Ils ont dit, prenons les devants et proposons un programme de bien-être numérique où un parent peut mettre un mot de passe pour limiter l'usage, admettons, 2 heures par jour. Donc, après ça, l'appli se barre jusqu'au lendemain pour les 24 prochaines heures.
Bien, dans la chanson de Stromae qu'on a fait entendre, il dit justement « Prends garde à toi, prends garde à vous ».
Oui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est drôle parce que je fais toutes sortes d'exercices avec les étudiants. Puis la session dernière, je leur ai demandé d'étudier leur consommation média sur quelques semaines, puis de me faire un petit compte-rendu, mais autrement que par des mots. J'ai dit, illustrez-moi ça par des dessins, des graphiques, faites-le comme vous voulez. Et beaucoup m'ont dit qu'ils constataient justement que des applis comme TikTok ou la consommation de Reels, souvent, après, les rendaient plus distraits. Ils avaient de la difficulté dans le contenu de cours, parce qu'on va se le dire, j'ai beau être bien animé quand je parle, je ne fais pas une vidéo.
En effet.
Donc, ça crée un peu un décalage pour eux quand ils sont pendant plusieurs heures à regarder des vidéos où littéralement, il y a des bruits, je veux dire, stridents, il y a toutes sortes de scènes qui sont surprenantes qui se succèdent. Après ça, retomber dans « discutons donc d'anthropologie, des médias numériques », quelque chose comme ça, c'est plus difficile. Et ça, c'est un constat, c'est qu'on est surstimulé tout le temps. Et après, hein, ça nous demande vraiment un effort, des fois, pour revenir à un mode, je dirais, de concentration un peu plus grand. Pensez juste, même, vous êtes sur Facebook, pendant la pandémie, ceux qui avaient des milliers d'amis, on est encore dans la pandémie, mais on n'est pas dans... Donc, on est moins, je dirais, ces temps-ci, là, agressés par beaucoup, beaucoup d'informations à la fois. Les gens, souvent, étaient littéralement bombardés. Fait que c'était, pour ceux, comme moi, je me rappelle avoir à ce moment-là suspendu, désactivé mon compte parce qu'il y avait tellement de disputes et d'informations que je me disais, mon Dieu, ça m'empêche de travailler. C'est à ce point-là. Fait qu'il y a vraiment, il y a ce côté-là. Et tous ces formats-là, si Facebook a copié TikTok, c'est parce qu'ils sentent que s'ils ne le faisaient pas, hein, le tapis allait leur être enlevé de sous les pieds. Fait que ça, c'est un phénomène d'ailleurs. Facebook fait toujours ça. Hein. Ils ont acheté Instagram. Ils avaient l'idée d'avoir Snapchat, pardonnez-moi, ils ont dit non. Ils ont donc acheté Instagram puis ils se sont mis à copier les fonctions de Snapchat. C'est du commerce. Et le but du commerce, c'est de vous garder en ligne pour que la publicité soit efficace, pour que la consommation continue. Fait qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Là. Même derrière OK Boomer, il y a eu tout un... Ensuite, une migration, je dirais, de plein de gens de la génération boomers qui sont arrivés vers le réseau TikTok. Fait qu'il y a toujours comme hein, un attrait, un aspect, je dirais, un petit peu commercial dans tout ça.
Nadia, je suis donc pas étonnée qu'en même temps, on prône la pleine conscience parce qu'il faut respirer dans tout ça. On aura peut-être le plaisir de vous réinviter pour décortiquer d'autres phénomènes. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous parliez des adolescents. Je vais faire entendre une pièce que mon fils de 18 ans m'a proposée qui s'appelle « Trop beau » et qui, entre autres, fait référence à tous ces selfies et autres, et c'est de l'homme pâle.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est...
c'était trop beau pour être vrai.
Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai.
Beau de l'homme pâle, L-O-M-E-P-A-L-E. On aime bien, au fil du temps, vous faire entendre des classiques de la chanson française, de la musique contemporaine et également de la musique qui est écoutée par les plus jeunes générations. Et j'ai découvert l'homme pâle grâce à mon fils Vincent. Lorsque nous sommes en voiture, il me fait découvrir de sa musique, je lui fais découvrir de la mienne. Je trouve que c'est une activité intergénérationnelle extraordinaire. Et c'est ainsi que se conclut notre 60e émission. Un grand merci à Maurice Bolduc en régie, à Catherine Bourderon à la recherche qui nous a fait découvrir cette semaine Tania Baladi et son livre « Jeunesse, les ratés ». La semaine prochaine, si je fais du pouce sur cette idée-là que parfois on pense qu'on va pas dans la bonne direction, puis finalement c'est une aventure extraordinaire qui s'ouvre à nous. Notre invité la semaine prochaine est quelqu'un qui est arrivé dans ma vie alors qu'il ne devait pas être là et qui finalement est devenu un grand ami, un grand complice professionnel. Il m'avait été imposé par une cliente à l'époque et je la remercie encore une fois d'avoir changé mes plans à l'époque. C'est vraiment le reflet comment c'est merveilleux parfois d'explorer d'autres chemins. Alors, ce sera Martin Ducharme pour sa conférence TED Exister. Et nous recevons également Marie-Ève Fortier, autrice que nous avons reçue cet été, qui nous confie une grande aventure humaine d'accompagner sa mère à travers l'Alzheimer. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine pleine de belles respirations parce que l'entrevue avec Nadia Serraeco c'était chargé tout ça. Alors, je nous souhaite d'être stimulés, mais de prendre le temps aussi de relaxer, tout simplement. Merci à tous. À très bientôt.